Chères auditrices et auditeurs de Radio Judaïka, bonjour. Bienvenue sur nos ondes pour un nouveau numéro des rendez-vous du CCOJB. Mon nom est Miko et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je serai seul pour animer cette émission. Comme à chaque fois, c'est Clément qui en assurera la technique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux invités bien connus de notre communauté. Tout d'abord Marc Lowenstein, bonjour.
Bonjour.
Et ensuite Joël Kotek, bonjour.
Bonjour.
Marc Lowenstein, je commencerai par vous si vous le voulez bien et par une brève présentation. Vous êtes né en 1977, vous êtes un homme politique. En 2012, vous devenez suite aux élections échevin de la commune de Forêt et depuis juillet 2014 député au Parlement bruxellois. Enfin, lors des élections communales et provinciales de 2018, vous êtes tête de liste du groupe Défi. Le 9 juin prochain auront lieu des élections importantes tant au niveau fédéral que régional et européen. Mais depuis le 7 octobre dernier, date du pogrom perpétré par le Hamas en Israël, les Juifs belges sont inquiets par la recrudescence d'un antisémitisme que nous n'avions plus connu de façon aussi virulente. Ma première question sera la suivante. Marc Lowenstein, quel est le bilan que vous pouvez tirer de l'action de votre parti Défi dans cette lutte contre l'antisémitisme et dans l'évolution de ses relations avec l'État d'Israël au terme de cette législature ?
Alors, très vaste question. J'espère qu'il y aura des sous-questions parce que je risque de louper certaines choses ou d'oublier de parler de certaines choses. Mais d'abord, peut-être sur les actions que Défi a menées au niveau du Parlement bruxellois et du Parlement de la Fédération de Bruxelles par rapport à l'antisémitisme, je peux citer 3-4 choses. D'abord, une initiative qui a été prise par mes collègues anciennement à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Joël Maison et Christophe Magdalène, c'est une proposition de résolution visant à lutter contre l'antisémitisme dans le milieu scolaire. Donc c'était une manière de rappeler que des élèves se font harceler, se font insulter, se font agresser parfois dans les écoles parce qu'ils sont juifs, subissent parfois aussi la double peine, à la fois l'acte antisémite, mais aussi le manque de réaction ou l'absence de réaction adéquate de la part du corps éducatif qui fait qu'au final, ces mêmes élèves en viennent à devoir changer d'école et avec parfois des retards dans leurs apprentissages. Aussi le fait que de nombreux juifs aujourd'hui fréquentent davantage les écoles juives que l'école publique, même si leurs parents à la base souhaitaient qu'ils suivent un parcours dans l'enseignement officiel public. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que les professeurs, les directions d'école sont désarmés parfois face à certains problèmes, notamment lorsqu'ils enseignent l'histoire de la Shoah dans les classes et les propos négationnistes qui sont tenus, l'importation du conflit israélo-palestinien, etc. Et donc, par rapport à tout ça, il y a des mesures clairement qui doivent être prises au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans l'enseignement francophone pour venir en soutien de ces enfants juifs. Ça, c'est une première initiative qui a été prise. Malheureusement, cette résolution a été encommissionnée au niveau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle n'a pas été adoptée. Et donc, en gros, la majorité MR, PS, écolo n'a pas voulu aller plus loin, en tout cas adopter ce texte qui me semblait important et donner un signal important à la communauté juive. Ça, c'est un premier point. On a eu aussi beaucoup l'occasion, d'abord j'ai eu à titre personnel l'occasion de poser pas mal de questions parlementaires sur des questions liées à l'antisémitisme, des questions assez diverses. Mais je vais peut-être retenir deux éléments essentiels qui ont marqué la législature. Ce sont les assises contre le racisme et la dernière résolution qui visait à adopter la stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme pour le soutien de la vie juive. Au niveau des assises contre le racisme, ce qui est d'ailleurs intéressant de rappeler, c'est samedi dernier, lors du discours de la fête de l'Iris, le président du Parlement, Rachid Madran, a évoqué ces assises dans son discours et a parlé, je cite, « assises contre le racisme et l'antisémitisme ». Donc voilà, c'est déjà une avancée et je pense qu'il a très bien entendu les préoccupations de la communauté juive à ce sujet, et pas que de la communauté juive, heureusement. Donc c'est un bon signal, même si on est en fin de législature et que voilà, mais c'est toujours bon à prendre, c'est important. Donc à ce niveau-là, On a eu l'occasion notamment de rappeler justement la spécificité de l'antisémitisme par rapport aux autres formes de racisme, et que c'est important de pouvoir le citer nommément. Rappeler aussi que l'antisémitisme ne vient pas que de l'extrême droite, comme tentent de le circonscrire certains partis de gauche et d'extrême gauche. Et par ailleurs aussi, rappeler que ce n'est pas parce que on est une personne discriminée qu'on ne peut pas se rendre coupable soi-même de discrimination ou de crimes de haine. Or, c'était un peu le discours de certaines associations lors de ces assises. Et on a aussi insisté sur la nécessité absolue de poser le bon diagnostic sans se voiler la face. Il y a toute une série d'études qui ont été faites, notamment par Joël Cotec, que vous entendrez après, au niveau dans le milieu scolaire. Apporter un bon diagnostic pour pouvoir apporter un bon remède à ce fléau. Et le dernier point que je voulais aborder au niveau de l'antisémitisme, c'est cette stratégie européenne. Et donc, on a eu l'occasion d'intervenir et, avec Marie Nagy, qui a été excellente dans son intervention en séance plénière, pour dénoncer le fait que le PS et Écolo, en rejetant finalement la définition de l'IRA, bradait la lutte contre l'antisémitisme pour des raisons électoralistes, que le PS écolo était incapable finalement de prendre en considération les dimensions antisémites de l'antisionisme radical. C'est quand même un élément qui est essentiel pour nous. Et j'entends encore certains détracteurs nous dire que cette définition vise à criminaliser la liberté, la critique d'Israël. C'est évidemment méconnaître la définition, puisque quand on la lit, on voit très bien que la critique d'Israël est tout à fait légitime dès lors qu'elle est faite comme qu'on critique Israël comme on critiquerait n'importe quel État. Et donc, cette affirmation est fausse. Et cette lutte, finalement, contre l'antisémitisme à la carte, est, je trouve, très écœurante. On a aussi dénoncé à ce moment-là le vote à géométrie variable, parce que c'est assez particulier dans ce cadre, selon les niveaux de pouvoir où ces partis siégeaient. Pour rappel, en 2018, le Sénat adoptait à l'unanimité une résolution visant à lutter contre l'antisémitisme. Cette définition adoptait la définition de l'IRA. D'ailleurs, elle adoptait aussi, elle demandait aussi la nomination, la désignation d'un coordinateur pour lutter contre l'antisémitisme. Le PS et Écolo ont adopté cette résolution au Sénat. Dans les communes, en 2022, au printemps 2022, à Forêt, à Ixelles, à Uccle, on a déposé des motions, moi à Forêt, Viviane Teitelbaum à Ixelles et Véronique Lederman à Uccle, des motions visant à adhérer à la stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme. Et dans ces communes, la motion a été votée à l'unanimité à Uccle, à l'unanimité à Ixelles, PTB compris, et à la quasi-unanimité à Forêt, avec une abstention du PTB. Et puis au Parlement bruxellois, la capitale de l'Europe, on vote différemment. C'est assez interpellant. Et je dois vous dire que cet épisode, ce débat a eu lieu juste après le 7 octobre. On a eu commission le 10 ou le 11 octobre. Et c'était assez difficile de devoir se battre pour faire admettre cette définition de l'IRA, pour faire admettre à tout le monde de partager, d'être unanime, finalement, sur la lutte contre l'antisémitisme au Parlement bruxellois. C'est assez préoccupant. Et surtout, alors, on peut avoir des avis divergents en politique en termes de logement, en termes de mobilité, etc. Mais ici, le fait, finalement, d'abandonner certaines valeurs à des fins électoralistes, c'est très grave et c'est interpellant pour le futur.
Ouais. Tout à fait. Mais on voit aussi, ils ont créé le mécanisme de veille de lutte contre l'antisémitisme et ils disent clairement qu'il n'y a pas besoin de nommer un coordinateur parce que le mécanisme de veille est le coordinateur de lutte contre l'antisémitisme. Donc on est en train de patauger, on se bat, nous, au niveau du CCOJB pour arriver à avoir ce coordinateur. Mais il y a une petite avancée, c'est-à-dire que suite à la lettre du CCOJB au Premier ministre dont nous allons reparler maintenant, il semblerait qu'il y ait une possibilité de nommer ce coordinateur.
Juste peut-être préciser certains éléments quand même pour le futur, parce qu'évidemment, parmi les priorités en termes d'antisémitisme, évidemment la désignation d'un coordinateur qui puisse aussi mettre en place cette stratégie belge de lutte contre l'antisémitisme et de soutien à la vie juive. Je pense aussi à un élément qui est très important, c'est le financement de la sécurité des institutions communautaires, des écoles juives. que là où il y a des permanents, ces permanents puissent être financés par l'État. Ce n'est pas normal aujourd'hui que, que les parents d'écoles juives doivent payer pour la sécurité de leurs enfants, pour que leurs enfants puissent aller à l'école en sécurité. D'abord, on parle de la communauté juive, mais la communauté juive sont d'abord des Belges qui sont de religion juive, sont des Belges. On est dans un état de droit et c'est important que l'État soit au centre et puisse assurer la sécurité. S'il n'est pas capable lui-même d'assurer la sécurité via sa police, alors qu'il mette la main au portefeuille et qu'il finance une sécurité.
Exactement. À l'instar de ce qui s'est passé en France aujourd'hui, où j'ai entendu qu'ils ont débloqué 6 millions d'euros, je crois, pour protéger les institutions juives. Alors, la deuxième question... Le 13 janvier dernier, un incident s'est produit justement au Parlement bruxellois lorsqu'un imam qui a été invité par un député PS a récité une sourate depuis la tribune du Parlement, suscitant une indignation et un rappel ferme à la neutralité des institutions par le président du Parlement, Rachid Madran. Celui-ci d'ailleurs s'était déclaré favorable à la prise de mesures pour éviter ce genre d'incident à l'avenir. Est-ce que vous avez une idée d'où nous en sommes à l'heure actuelle ?
Oui, d'abord, on a réagi très rapidement aussi pour rappeler que le Parlement, ce n'était pas un temple religieux, mais le temple de la démocratie, que c'était important de le préserver de ce type d'incident. Alors, il y a eu pas mal de discussions qui ont eu lieu suite à ça. Et d'abord, ce qu'on a remarqué, c'est que finalement, et ça peut paraître logique et à la fois illogique, c'est qu'un député ne peut pas être sanctionné par rapport à ça. Malgré tout, il y a certaines mesures qui ont été prises. On a adopté dernièrement au bureau du Parlement un règlement visant justement à réglementer, à établir des règles pour les visites du Parlement. Avant, il ne fallait pas donner de liste de personnes qui viennent, il ne fallait pas de liste précise avec les noms et prénoms, l'identité des visiteurs. Ce sera le cas désormais. Avec un accompagnement obligatoire d'une personne des relations publiques, avec aussi l'impossibilité ou en tout cas la limitation de l'accès à la tribune des présidents dans les différentes salles de commission et dans l'hémicycle. Et puis, on a assorti ce règlement de sanctions au cas où on ne respecte pas justement ces règles, qui vont, à mon souvenir, de 1 à 3 ans d'interdiction d'organiser des visites. Mais là s'arrête finalement la sanction possible à l'égard du parlementaire en question. Alors un autre élément qui pourrait être éventuellement mis sur la table, que j'ai en tout cas mis personnellement sur la table, c'est le fait que finalement l'événement qui a eu lieu le 13 janvier a été détourné de son objectif initial, en tout cas l'objectif communiqué, à savoir la visite du Parlement. La visite s'est transformée en une remise des prix. Une remise de prix, c'est un événement. Un événement est censé recevoir, doit obligatoirement recevoir l'accord du bureau du Parlement. Il ne l'a pas reçu. Or, quand on loue une salle, on doit payer la location de la salle. Eh bien, peut-être qu'on pourrait lui faire payer la location de la salle. Ce serait déjà ça.
Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et enfin, on a parlé de la lettre qui a été écrite au Premier ministre par le CCOJB. Pour expliquer à M. De Croo le mal-être de la communauté juive face aux prises de position de certains membres du gouvernement, notamment fédéral, dans le cadre du conflit qui se déroule actuellement à Gaza. Nous avons le sentiment que les événements du 7 octobre sont occultés. La communauté juive de Belgique se sent délaissée. Par ailleurs, la montée en puissance des incidents antisémites dans notre pays et dans le monde ne nous rassure pas. Dans sa réponse, le Premier ministre réfute ces remarques. Mais elles sont un fait réel avec des propos tout à fait clairs de ministres fédéraux tels que ceux de Mme Genet pour ne citer que cette dernière. Pensez-vous que nous avons raison de nous inquiéter face à ce qui nous semble être une politique de complaisance de notre pays, à l'égard notamment de mouvements islamistes radicaux qui y ont pignon sur rue, et quelles seraient les solutions à envisager pour la prochaine législature ?
Alors moi je suis assez inquiet quand je lis le courrier. Ce qui m'a d'abord interpellé, j'ai relevé quelques phrases, notamment, je vais vous citer la phrase, hein, « Je sollicite votre compréhension à l'égard du malheur qui frappe la population palestinienne à Gaza ». Quand j'entends ça, ça donnerait l'impression finalement que les Juifs de Belgique, ou plutôt les Belges de religion juive, n'ont aucune empathie par rapport à ce qui se passe là-bas. Alors, bien évidemment qu'on comprend le malheur de la population palestinienne, Mais ça doit ni occulter le point de départ, à savoir les massacres, les pogroms du 7 octobre et les prises d'otages, mais aussi, et c'est ça qui est frappant dans le courrier que je n'ai pas vu, ce qui nous concerne finalement, c'est ce qui se passe ici en Belgique, et c'est l'importation du conflit, c'est le fait qu'aujourd'hui, des familles belges de religion juive se questionnent sur leur avenir en Belgique. C'est quand même ça qui est fondamental. Et c'est à ça que devrait répondre le Premier ministre dans le courrier. Et ça, je ne vois aucune réponse par rapport à ça. La seule réponse que je vois, c'est « on est solidaire avec vous ». Et c'est un autre passage « je suis votre allié dans la lutte contre l'antisémitisme et je continue à renforcer notre arsenal de mesures ». Où il dit, avec le ministre de la Justice, avec mon collègue ministre de la Justice, on va nommer un coordinateur. Et je me pose ici aussi la question, on est en fin de législature, il y a eu 5 ans pour nommer ce coordinateur. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 5 ans? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend de plus être Premier ministre pour peser de tout son poids et nommer un coordinateur. Donc on est dans une situation, dans une hypocrisie totale.
C'est vrai que ça fait des
et c'est assez révoltant, d'autant plus que, je rappelle, la résolution du Sénat de 2018, qui demandait déjà la nomination d'un coordinateur, la stratégie européenne de 2021 qui demande un coordinateur, les demandes répétées de la communauté juive qui demande un coordinateur, et on est ici à un mois des élections, et là on dit « Ah, on est tout à fait prêts, mon collègue et moi, à nommer un coordinateur, sauf qu'on ne va pas le faire maintenant ». C'est quand même un échec de sa part, mais je trouve aussi un échec de l'ensemble du gouvernement. Donc le gouvernement est composé de l'OPNVLD, du MR, qui aborde aussi beaucoup la question, mais finalement avec peu de résultats, mais aussi du PS, d'Écolo, Groen, Voreut et le CDNV. Donc c'est un échec collectif, et c'est très regrettable, et c'est un mauvais signal pour la communauté juive.
Ok, ben, Marc Lowenstein, mille merci. On vous a entendu en première partie. Mille merci pour votre intervention.
Merci à vous.
Nous allons passer à notre deuxième invité dans quelques instants.
Judaïka.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous voici arrivés à la deuxième partie de notre émission des rendez-vous du CCJB. Pour cette deuxième partie, nous avons le très grand plaisir de recevoir Joël Kotek, figure bien connue de notre communauté. Joël, rebonjour.
Rebonjour.
Vite un bref rappel. Vous êtes né en 1958 à Gand. Vous êtes politologue et historien belge, licencié en histoire contemporaine de l'ULB. Vous avez soutenu votre thèse de doctorat en sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris en 1992. Vous êtes d'ailleurs professeur de sciences politiques à Paris ainsi qu'à l'ULB. Vous êtes actuellement...
Émérite, ok.
Vous êtes actuellement secrétaire général du Centre européen d'études contre le racisme, membre du conseil d'administration du musée juif de la Shoah de Malines, et vous appartenez au conseil scientifique du projet Aladdin parrainé par l'UNESCO qui vise à une meilleure compréhension de la Shoah. Mais parlons, si vous le voulez bien, de votre actualité. Depuis le 7 octobre dernier, le monde juif en Europe a pris conscience que le « plus jamais ça », si souvent prononcé depuis l'Holocauste, a perdu tout son sens. C'est une des raisons qui vous a amené, du moins je crois, à créer l'Institut Jonatas avec d'autres membres connus de notre communauté. Pourriez-vous, Joël, nous en dire un peu plus afin que nos auditeurs comprennent mieux l'essence de ce projet?
Oui, alors ce n'est pas évident, très peu de temps, mais disons ce qui est important à souligner, c'est le fait qu'on a l'impression que, en quelque sorte, à la fois le monde juif, d'une manière générale, il y a énormément d'ignorance en ce qui concerne le fait de l'antisémitisme. Et donc ce qu'on veut, c'est tout simplement remplir une sorte de vide, non pas de créer une nouvelle organisation juive, nous ne sommes pas une organisation juive, on se veut comme un centre d'études et de réflexion, et aussi on peut dire de combat sur l'antisémitisme, pour essayer de lutter contre les biais qui sont extrêmement forts, à la fois contre l'ignorance, il y a beaucoup d'ignorance, et ça on le sait tous, etc., mais aussi contre la mauvaise foi, qui gagne à la fois le monde politique et aussi le monde médiatique en ce qui concerne à la fois la question de l'antisémitisme, et là, mon ami Lowenstein l'a très très bien souligné, effectivement, hein, il y a encore une fois des interdits, hein, il y a un certain nombre de choses qu'on ne veut pas évoquer, notamment la réalité de l'antisémitisme arabo-musulman, et en même temps, donc voilà, de lutter contre la mauvaise foi, et c'est une chose extrêmement importante. Alors on veut le faire de manière non polémique, et ça c'est important, sans outrance, sans se faire plaisir, parce que effectivement, on peut se faire plaisir. Et ce qu'on veut, c'est de le démontrer à travers des études, à travers aussi notamment des enquêtes sociologiques, qui, si c'est possible, tentons de démontrer effectivement les biais qui existent au sein à la fois du monde politique et à la fois du monde médiatique.
Ok. Et le nom Jonatas
Alors Jonatas, on l'a trouvé pourquoi? Parce que, bon, je suis historien, et tout simplement parce qu'on dit souvent que les soucis aujourd'hui que connaît la communauté juive, elle est liée tout simplement au conflit israélo-palestinien, à l'importation du conflit. Et à travers le nom Jonatas, on veut expliquer qu'il y a quand même aussi, disons que la relation entre le monde juif et le monde chrétien n'a pas toujours été au beau fixe. Et qui était Jonatas? Alors Jonatas, c'est un juif d'Anguien, vraisemblablement, qui est au XIVe siècle. Avait été accusé avec d'autres responsables de la communauté juive, à la fois de Bruxelles et d'Anguien, d'avoir profané des hosties, et qui, à la suite de quoi, a été, lui, pour sa part, assassiné. Et pour ce qui concerne les autres membres de la communauté, qui ont été accusés, torturés, brûlés en place publique, vraisemblablement à côté de la porte de Halle, et qui a vu l'expulsion définitive des Juifs de la province de Brabant, la province de Brabant qui comptait Bruxelles, Anguien, mais aussi la ville d'Anvers. Et donc, ce qui explique que pendant quelques siècles, il n'y a plus de Juifs dans nos provinces belges, et d'expliquer aussi qu'il y a un antisémitisme endogène, indigène, si vous voulez, que la relation entre les Juifs et les chrétiens n'a pas toujours été au beau fixe, jusqu'à la Shoah et jusqu'à la révolution de Vatican II.
Et maintenant, c'est avec la communauté musulmane que nous avons mal à partir.
Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer aussi, c'est, encore une fois, de manière non polémique, ce que j'ai appelé, moi, les trois antisémitismes lors de notre séance inaugurale à l'ULB, c'est d'expliquer qu'il y a à la fois, il y a trois strates qui se renforcent les unes les autres. Il y a l'antisémitisme classique, primaire, à la fois chrétien, il y a d'origine chrétienne et d'origine musulmane, le statut de la dhimmitude, la dhimma, hein, qui posait les juifs en citoyens de seconde zone et qui explique pourquoi, dans le monde arabe, il n'y a plus de juifs. 99% des juifs ont quitté le monde arabe. Et ça aussi, c'est important de rappeler. Et ce sera l'occasion aussi, Jonatas va sans doute organiser à la rentrée un grand événement autour de ce que moi j'appelle la Nakba des juifs d'Orient. Parce qu'on oublie, effectivement, qu'en Israël, il y a des juifs d'Orient. Ils sont peut-être majoritaires. Puis il y a l'antisémitisme secondaire, qui est un antisémitisme non pas mais à cause d'Auschwitz. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de culpabilité. Il ne faut pas oublier quand même que il y a eu un grand nombre de Belges, et surtout en Flandre, qui ont collaboré à l'extermination des Juifs. 65% des Juifs d'Anvers ont été exterminés, compte tenu de la collaboration, notamment de la ville d'Anvers elle-même. Et puis, voilà, j'ai peut-être inventé un concept, c'est l'antisémitisme tertiaire, qui est un antisémitisme de circonstance, mais qui est peut-être le plus important aujourd'hui en Belgique. C'est un antisémitisme électoraliste, qui pose effectivement Israël en ennemi, en juif des nations, compte tenu tout simplement du vote musulman. Et ça, on le sait. Le vote musulman à Bruxelles est prépondérant, ce qui explique effectivement les positions entrées à la fois du PS, des colos et du PTB, à savoir quel pays sera le plus enclin, effectivement, à condamner Israël. Et donc, il y a une sorte de surenchère absolument absurde dont nous sommes les victimes, effectivement.
Claire.
Tout à fait.
Justement, je rebondis sur cela. Depuis de nombreuses années, la presse belge, tant télévisée qu'écrite, a toujours montré son aversion, n'ayons pas peur des mots, à l'égard d'Israël. Un article très récent de la rédactrice en chef du quotidien Le Soir, dont nous savons son manque total d'empathie à l'égard des victimes de ce conflit, des victimes israéliennes de ce conflit, Madame Delvaux, va jusqu'à qualifier que la réaction des Américains face à ce conflit est, j'ouvre les guillemets, je cite, saine. Comment réagissez-vous face à ce que le CCOJB, dans sa réponse à Madame Delvaux, convient d'appeler un militantisme aveugle? Comment ne pas mentionner des journalistes comme Baudouin Loos, qui depuis des années faussent l'information sur ce conflit?
Oui, alors ce qu'il y a, alors on peut dire, il y a, oui, parmi effectivement les menaces qui pèsent sur la communauté juive, c'est à la fois l'ignorance et la mauvaise foi. Et je dirais les biais idéologiques, tout simplement. Alors, je dis qu'on est un peu victime de ce qu'on appelle, à raison, je dirais, une sorte d'antisémitisme, ou en tout cas d'opposition, de gauchisme culturel. Voilà, c'est le mot, tout simplement, le gauchisme culturel, qui pose Israël en une sorte de porte-avions des États-Unis, etc., et Israël en une sorte de nouveau Vietnam du Sud, etc. Et voilà, et la réalité, elle est là. Et ce qui amène Béatrice Delvaux à voir, à travers des lunettes totalement déformées, un conflit où, finalement, il y a deux légitimités, parce que moi, personnellement, je suis pour la création d'un État palestinien à côté d'Israël, mais de ne voir qu'en Israël, le mal et de soutenir des mouvements qui, comme c'est le cas en ce qui concerne donc les récentes manifestations aux États-Unis dans les campus, et j'ai appris aujourd'hui le début peut-être de manifestations Saint-Louis-B, de gens qui réclament tout simplement la disparition pure et simple d'Israël, donc de manière totalement unilatérale. Et oui, c'est un gauchisme culturel. Et donc, il y a une sorte d'islamo-gauchisme qui est extrêmement virulent en Belgique et qui est renforcé aussi par, oui, par une sorte d'aveuglement. Le même aveuglement qu'on a connu au moment de la crise du stalinisme, etc., où on ne voulait pas voir le goulag, etc., où on a soutenu la révolution culturelle chinoise. Et c'est la même chose. Ouais. C'est-à-dire que chaque génération a ses aveuglements. Et Béatrice Delvaux, qui est une femme intelligente, mais... Je dis, elle ne veut pas comprendre ce qui se passe et donc, voilà, elle s'engouffre dans des vérités qui n'en sont pas, mais qui font plaisir. Elle se fait plaisir comme chez nous, d'autres personnes se font plaisir, etc.
Oh, bien sûr.
Donc c'est un jeu de dupes et je pense qu'elle ne respecte pas le noble métier dont elle est un des grands porte-parole dans notre pays, malheureusement.
Mais justement, je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport à ce qui se passe dans les universités, notamment américaines, comme Columbia, UCLA, Sciences Po à Paris... Et maintenant, depuis aujourd'hui, ici, ces manifestations font ressurgir des actes nauséabonds qui nous rappellent clairement ceux que nos parents ont connus dans les années 30. Assurément, cet antisémitisme était enfoui depuis trop longtemps et les actes perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier, au lieu de créer un mouvement d'empathie à l'égard des victimes israéliennes, ont fait ressurgir cet antisémitisme. Je vais être très cash. Croyez-vous que notre vie et notre cause en tant que juifs dans les pays occidentaux, sont perdus, ou nous avons encore le droit d'espérer?
Alors, on a toujours le droit d'espérer, et c'est pour ça qu'on a créé Jonatas, c'est pour essayer de répondre au tac au tac, etc., de manière, encore une fois, je veux dire, de manière rationnelle à ces menaces qui pèsent effectivement sur nous, d'essayer de rétablir des vérités et de convaincre que la surenchère n'est pas souhaitable et que défendre des mouvements qui prônent la disparition d'Israël est terrible parce que, en fait, ce sont des mouvements, et on peut dire, les articles comme ceux de Mme Delvaux ou aussi des autres éditorialistes, que ce soit de la RTBF ou que ce soit du Soir, renforcent en fait le camp du refus, même en Israël. C'est-à-dire que les extrêmes se renforcent les uns les autres.
Bien sûr.
Et donc, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt s'interroger sur les raisons pour lesquelles, par exemple, les gens de Sciences Po, effectivement, n'ont aucune empathie pour les otages notamment, et qu'on ne peut pas à la fois espérer un cessez-le-feu sans que les otages ne soient libérés. Ce qui est fou, c'est qu'on ne cesse de parler de génocide, alors que ce serait un génocide qui pourrait être arrêté du jour au lendemain par ceux qui en seraient soi-disant les victimes. C'est-à-dire qu'il suffirait au Hamas de libérer demain ou dans l'heure les otages, morts comme vivants, en rendant leurs cadavres, pour que Netanyahou soit obligé de se retirer. Mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que le Hamas, tout simplement, veut, comme une partie des extrémistes israéliens, veut la guerre et veut le conflit, veut l'envenimer. Et on l'a vu lorsqu'il a tiré hier, si je ne me trompe pas, des roquettes sur un centre de tri. Et donc c'est ça le problème. Dès qu'on a affaire à des mouvements extrémistes et qui sont soutenus par des gens intelligents en Belgique pour des raisons idéologiques.
Oui, on le voit d'ailleurs dans les propositions qui sont faites justement pour la libération des otages, dans des négociations, systématiquement, ils reviennent avec d'autres exigences pour que ça n'aboutisse pas.
C'est ça. En quelque sorte, le Hamas est le maître du jeu. Il pourrait arrêter effectivement tout de suite et depuis le début. Et c'est en ça que c'est insupportable ce qui se passe là. Et Mme Delvaux aurait dû normalement effectivement rappeler que le Hamas est aussi responsable de cette crise-là. C'est-à-dire que c'est le Hamas qui a lancé les hostilités le 7 octobre. Et c'est le Hamas qui, d'ailleurs, avait fait capoter les accords d'Oslo une fois signés par la multiplication d'attentats contre les autobus en Israël. Mais non, le Hamas est un mouvement révolutionnaire, soi-disant, est un mouvement de résistance. Donc tout ce que fait le Hamas, c'est bon. Et Israël est un État voyou et que tout ce que fait Israël est mauvais, etc. Et naturellement, cela n'est pas la paix. Bon. Et c'est dommage.
Ouais, mais voilà. Ok, ben je crois que nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je voudrais vous remercier encore à tous les deux pour tous vos bons éclairages. Merci à Clément pour la technique. Quant à moi, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission le mercredi à 16h, jeudi à 10h et dimanche à 19h, ainsi qu'en podcast et sur la page Facebook de Radio Judaïka. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission des rendez-vous du CCOJB. Merci encore Joël, merci Marco.
Merci.